Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Percevoir l'hindouisme est difficile à saisir. Il s'agit d'une véritable forêt dont on ne peut distinguer les multiples essences. Et l'Occidental a tendance à confondre hindou et indien, nirvana, yoga, hindouisme et bouddhisme, brahman, fakir et bonze. Une brève rétrospective de la métaphysique hindoue me paraît utile. Brahman, il est l'absolu divin, le principe de l'univers, l'énergie cosmique. Il est esprit. On ne le voit pas et il voit. On n'entend pas et il entend. On ne le pense pas et il pense, on ne le connaît pas et il connaît. Et cela, ce sont les livres sacrés qui le disent. Atman, c'est le soi-même d'un être, son esprit. C'est le Brahman en tant que présent dans l'être, car l'Atman est identique au Brahman. Une formule célèbre l'affirme. Tat, toi, asi. Toi aussi, tu es lui. Le Brahman est présent dans le cœur. Pour le trouver, il suffit de méditer. Plus petit que ce qui est le plus petit, plus grand que ce qui est le plus grand, l'essence de l'être repose cachée dans le cœur de la créature, disent toujours les livres sacrés. Saguna Brahma, ou Isvarna, ou encore le Samsara, c'est-à-dire l'écoulement universel. Puisque l'Atman, comme le Brahman, est éternel, lui aussi survit à la mort, et est entraîné dans l'écoulement universel par la roue des transmigrations. Ainsi, le nouveau-né voyage sur le sentier sans fin jusqu'à ce qu'il rejoigne définitivement le Brahma par l'effort moral, la connaissance ou la dévotion. Mais au terme de combien d'existences, nul ne le sait. Les hindous croient qu'il existe dans l'univers de nombreux mondes inhabités. En fait, 7 mondes supérieurs et 7 inférieurs, ainsi que 21 enfers. Les mondes supérieurs comprennent tout d'abord le ciel et les dieux, et les déesses qui vivent enveloppés d'un corps subtil, et ensuite la terre où se trouvent les humains dans leur corps grossier. Un autre monde supérieur existe cependant encore dans le ciel, celui des esprits, des lutins, des fantômes. Les mondes inférieurs sont réservés aux créatures vivantes qui sont ni humaines ni animales. Les 21 enfers renferment le dieu du châtiment et ses serviteurs. Mais parlons un peu des transmigrations. À la mort, l'âme comparaît aussitôt devant le dieu de la mort pour y être jugée et envoyée soit au ciel en récompense, ce qui n'est pas l'absorption dans l'absolu impersonnel, soit en enfer pour y être punie. Après une existence temporaire dans l'un de ces deux endroits, l'âme peut renaître dans n'importe quel monde et sous n'importe quelle forme. Tout dépend de la qualité que présentait sa vie précédente. L'âme d'un dieu peut très bien, par exemple, revivre en tant qu'homme, et celle d'un humain devenir dieu, démon, un autre homme, ou encore un animal quelconque. Il est possible qu'un démon dont les actions furent bénéfiques devienne un homme, mais ce dernier doit alors nécessairement être mauvais. Toutes les âmes sont essentiellement les mêmes, excepté la nature du corps qu'elles revêtaient, ce qui détermine largement le niveau ou le monde dans lequel elles vivent, ainsi que la qualité de leur existence. Les mondes sont pratiquement les mêmes en ce qui concerne les villes, les châteaux, les forteresses, les rivières et les arbres, et ressemblent donc à la terre. Mais l'hindou espère fermement pouvoir renaître au plus haut niveau d'existence possible afin de se rapprocher toujours davantage de la possibilité d'être absorbé dans l'absolu impersonnel. Vers 1500 avant Jésus-Christ, l'invasion des Aryens venus du Nord apporta à la culture indienne la langue sanscrite, qui devint bientôt la langue sacrée et littéraire des Brahmanes. Cette époque dite védique voit naître les 4 livres sacrés, les Védas, c'est-à-dire le savoir. Le plus important est le Rig Veda, le savoir mis en strophe, collection de 1028 hymnes d'une grande beauté lyrique et métaphysique. Lui par qui existent ces montagnes de neige, et la mer avec la rivière lointaine, lui qui a pour bras les régions du ciel, qui est ce Dieu que nous l'honorions par des sacrifices? le savoir en formule rituelle, en notation mélodique, en pratique bénéfique et magique. Et en termes éthiques, les Védas ont besoin de commentaires, d'explications. Brahmanas et Upanishad. Les premiers décrivent la liturgie, paroles rituelles, libation de liqueurs sacrées, le soma, genre d'hydromel, et surtout les sacrifices offerts par les Brahmanes, les prêtres. Les seconds commentaires, plus philosophiques, se résument dans l'affirmation de l'existence d'un principe tout-puissant, éternel, absolu, immanent et transcendant à la fois. Ce principe n'est qu'autre que le Brahman. Aux quatre Védas et à leurs commentaires se sont ajoutés une foule d'autres écrits sacrés. Certains décrivent les dieux de la nature propres aux aborigènes, tandis que d'autres racontent les exploits des divinités aryennes. De nombreux détails sont donnés sur le rituel à utiliser durant l'adoration des dieux, ainsi que sur les devoirs quotidiens de chaque caste. L'ultime autorité chez les hindous repose sur les personnes, non sur les fondateurs, mais sur les intuitions et l'enseignement qui se sont transmis soit de bouche à oreille, soit par écrit. Un ascète peut par contre coucher sur le papier ses expériences, donner ses méthodes de discipline et rejoindre le nombre des écrivains sacrés. Quelqu'un peut tout aussi simplement faire part par écrit de ses méditations à un point tel que son esprit dérive intuitivement vers les hautes sphères de la connaissance spirituelle et métaphysique. L'hindou est individualiste, tolérant, spirituellement pragmatiste. Son Dieu omniprésent, d'où ses quatre têtes, est aussi omniforme. Il peut s'incarner, se symboliser, se manifester sous n'importe quelle apparence humaine, animale, vache sacrée ou éléphant, voire dans un fleuve, le Gange. Comme le dit Grousset, cette métaphysique va bientôt servir de couverture au panthéon populaire le plus foisonnant, le plus dégénéré, et disons le mot, le plus monstrueux de l'Asie. Ainsi, Brahman, appelé aussi Ishvara, le seul et unique Dieu, prend l'appellation de Brahma, Vishnu ou Shiva, suivant qu'il crée, conserve ou détruit. Les descentes ou incarnations de Vishnu, conservateur du monde, permettent de l'adorer sous la forme de poissons, tortues, lutins, sangliers, lions, etc., ou même sous le visage de Rama, de Krishna. Shiva est ambivalent. Par sa danse cosmique, il anéantit l'univers pour ensuite le reconstruire. La liste des dieux comporte des milliers de noms d'êtres et d'esprits qui se marient, prolifèrent et ont des aventures bien humaines comme dans la mythologie grecque ou romaine. Nombre de sectes adorent la mère divine, Durga ou Kali, la cruelle, qui exige des sacrifices sanglants. D'autres révèrent Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, fils de Shiva. Dans toutes ces légendes, les symboles, les rites, le sublime côtoie le pittoresque, voire les grillards. Le dharma moral hindou est quelque chose de tout à fait spécial, car l'hindou doit respecter trois lois fondamentales. La première, la loi des castes. Depuis les origines védiques, quatre castes essentielles sont présentes. Les brahmanes, issus de la tête du dieu Brahma, les nobles guerriers, issus de ses épaules, les hommes libres, issus de son ventre, les esclaves, issus de ses pieds, et, ajoutons, les hors castes, c'est-à-dire les parias ou intouchables. Le deuxième, la loi des stades de vie. Une fois sorti de l'enfance, l'hindou, surtout le brahman, doit parcourir successivement au cours de son existence quatre stades. Étudiant, maître de maison, ermite, religieux, errant. Troisièmement, la loi de conduite individuelle. Pureté, maîtrise de soi, détachement, véracité, non-violence ou non-nuisance. Après avoir sondé cette religion comme nous l'avons fait, nous pouvons fort bien en comprendre les raisons. Je trouve personnellement étrange que certains tirés par cette mystique orientale qui à l'examen se révèle être touffue, compliquée, voire injuste à bien des points de vue. Il serait vain de vouloir nous faire admettre, comme le tentent des théologiens modernes, que l'hindouisme a tellement de points communs avec la Bible que nous devrions être tolérants à son égard. Les chrétiens indiens pensent quant à eux que l'hindouisme est une œuvre diabolique. Il serait donc illogique de soutenir une religion païenne sous prétexte qu'elle présente quelques très vagues similitudes avec le christianisme. les hindous ne sont monothéistes que dans le sens où ils croient à un seul Dieu absolu que la cause première. Mais leur concept de Dieu est absolument faux. Ils enseignent que cette cause première ne s'est jamais adressée au genre humain. Cet être absolu n'est pas une divinité qu'on doit adorer, mais un état de l'être par lequel l'esprit de l'individu peut être éventuellement réabsorbé et dans lequel l'identité distincte disparaîtra. Le vrai Dieu est ici ignoré dans sa vraie nature pour être remplacé par une multiplicité de créatures prétendument divines. Ces dieux ne sont que des mythes sortis de l'imagination humaine. Étant donné qu'ils sont issus de l'esprit de l'homme, ces fantasmagories n'ont aucune place dans son salut. Ces dieux sont eux-mêmes perdus, puisque, étant séparés de l'absolu divin, ils doivent renaître comme humains et parcourir un long et dur chemin afin de pouvoir le réintégrer. De plus, les dieux hindous ne sont en réalité que des hommes dont on exalte les qualités qui, à leur tour, donnent à leur pareil de quoi satisfaire leurs envies. Puisque chaque personne est considérée comme faisant partie d'une divinité, il suffit de méditer pour produire la vérité dans l'esprit de quelqu'un. Les hindous croient que de telles méditations ou exercices de yoga peuvent le sauver. L'homme est un autocrate, ce qui produit en lui une supériorité, une arrogance notable par rapport au reste de ses semblables. Il est impossible de faire appel à un pouvoir unique. Et par conséquent, toute doctrine, toute pratique religieuse, même contradictoire, est tolérée dans le cadre de l'hindouisme. Christ peut très bien être considéré par les hindous comme étant un grand sage, même l'incarnation d'un de leurs dieux. Mais ils n'acceptent ni ses titres, ni sa doctrine. De toute manière, ils estiment que chacun est libre d'adopter ou de rejeter ce qu'il veut en matière d'enseignement spirituel. Le ciel et l'enfer existent, mais non comme demeures éternelles. La véritable et éternelle béatitude se trouve dans l'existence impersonnelle d'Atma. L'hindouisme n'attribue aucune limite à la possibilité de salut. On peut toujours renaître pour atteindre Atma, même s'il faut le faire 1000 fois. Il ne fait aucun doute que l'hindouisme est en flagrante contradiction avec la parole de Dieu.
Alléluia, 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 alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Je prends part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous voulez entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086, Toulouse CEDEX. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086, Toulouse CEDEX, France. Au revoir. À la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous garde.
Amen.